Canal Sud, 92.2, bonjour tout le monde. Voilà contre-histoire, et nous retournons au Pakistan dans un premier temps pour continuer l'histoire extraordinaire de Malala. Alors là, Malala va à l'école, dans le bus de l'école. Le bus quitta la rue principale et prit à droite après le barrage routier de l'armée. Sur la guérite était placardée une affiche de barbu en turbané avec des yeux de démon sous la mention en grosses lettres « Terroriste recherché ». La photo du haut, un barbu au turban noir, était celle de Fazlullah, donc le chef des talibans du Pakistan. Plus de 3 ans avaient passé depuis le début de l'opération militaire destinée à chasser les talibans du Swat. Le Swat, la région natale de Malala. Nous étions reconnaissants à l'armée, mais nous ne comprenions pas pourquoi. Il y avait encore des soldats partout, des snipers embusqués sur les toits et des barrages routiers. Rien que pour pénétrer dans notre vallée, il fallait une autorisation officielle. La rue qui remonte la petite colline était généralement encombrée. C'est un raccourci, mais ce jour-là, elle était étrangement calme. « Où sont tous les gens ? » demandai-je. Oui, je vous rappelle que c'est ce que je vous lis. Ce sont de grands extraits du livre que Malala a écrit, où elle raconte tout ce qui lui est arrivé dans toute sa vie. C'est une espèce de journal a posteriori. Alors donc, elle était dans le bus, dans la camionnette bus qui faisait le transport des enfants jusqu'à leur école. Toutes les filles chantaient et babillaient et nos voix résonnaient à l'intérieur de la camionnette. À cet instant même, ma mère était probablement en train de franchir le seuil de notre école pour sa première leçon depuis qu'elle avait arrêté ses études à 6 ans. Je ne vis pas les deux jeunes hommes surgir sur la route et faire arrêter brusquement le bus. Je n'eus pas la possibilité de répondre à leur question « Qui est Malala ?» Sinon, je leur aurais expliqué pourquoi ils devaient nous laisser aller à l'école ainsi que leurs propres sœurs et filles. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir pensé aux révisions que je devais faire pour le lendemain. Le bruit que j'entendis dans ma tête ne fut pas les 3 détonations, mais le « tchac-tchac-tchac » du boucher qui coupait les têtes de poulet. Et puis me revint l'image des petites flaques d'eau ruisselait de minces filets de sang écarlate. Ousmane Baïjan est le chauffeur de la camionnette. À peine eut-il compris ce qui s'était passé qu'il conduisit la camionnette à l'hôpital central du Swat à tombeau ouvert. Les autres filles pleuraient et hurlaient. Je gisais sur les genoux de mon ami Moniba, la tête et l'oreille gauche en sang. Nous avions à peine roulé qu'un policier nous arrêta et commença à poser des questions, nous faisant perdre un temps précieux. Une fille me tâta le cou pour chercher mon pouls. « Elle est vivante » cria-t-elle. « Nous devons la conduire à l'hôpital, laissez-nous et capturez l'homme qui a fait ça. » Pour nous, Mingora a l'air d'une grande ville, mais en réalité c'est une petite bourgade et la nouvelle se répandit rapidement. Mon père était au club de la presse du Swat pour une réunion de l'association des écoles privées et il venait de monter sur le podium pour prononcer un discours quand son mobile sonna. Reconnaissant le numéro de la Kushal School, son école, il passa l'appareil à son ami Ahmad Shah pour qu'il réponde. « On a tiré sur le bus de ton école, » lui chuchota celui-ci d'une voix pressante. Mon père blêmit. Il songea immédiatement que j'étais peut-être à bord du véhicule. Puis il essaya de se rassurer, se disant que c'était peut-être un garçon, un amoureux jaloux qui avait tiré un coup de feu en l'air pour faire honte à sa bien-aimée. La réunion à laquelle il participait était une assemblée de quelque 400 directeurs d'école venus de tout le SWAT pour protester contre le projet gouvernemental d'imposer une autorisation de régulation centrale. En tant que président de cette association, mon père, se disant qu'il ne pouvait pas abandonner tout ce monde, prononça son discours, comme prévu. Mais son front perlait de sueur et pour une fois personne n'eut besoin de lui faire signe d'abréger. À peine eut-il terminé qu'il n'attendit pas les questions de l'auditoire et se précipita à l'hôpital avec Ahmed Shah et un autre ami, Riaz, qui avait une voiture. L'hôpital n'était qu'à 5 minutes de là. Ils y trouvèrent une foule, massée devant, et des photographes et caméras de télévision. C'est là qu'il eut la certitude que c'était moi. Il fendit la foule et courut sous les flashs dans l'hôpital. À l'intérieur, j'étais allongé sur une civière, la tête pincée, les yeux clos et les cheveux épars. « Ma fille, tu es ma courageuse fille, ma magnifique fille !» répétait-il en m'embrassant le front, le nez, les joues. Sans savoir pourquoi, il me parlait en anglais. Je crois que j'ai senti qu'il était là, même si j'avais les yeux fermés. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai senti qu'elle réagissait, affirma mon père. Plus tard, quelqu'un raconta que j'avais souri. Mais pour lui, ce n'était pas un sourire, mais seulement un minuscule et magnifique moment. Car il sut qu'il ne m'avait pas perdu pour toujours. Me voir ainsi était la pire chose qui lui soit arrivée. Tous les enfants sont exceptionnels pour leurs parents, mais pour mon père, j'étais tout son univers. Je l'accompagnais dans ses combats depuis si longtemps, d'abord sous le nom de Gul Makai, puis sans plus me cacher sous mon vrai nom, Malala. Il avait toujours pensé que si les talibans s'en prenaient à quelqu'un, ce serait à lui et pas à moi. Il déclara qu'il avait eu l'impression d'avoir été foudroyé. Ils ont voulu faire d'une pierre deux coups, tuer Malala et me faire taire à jamais, dit-il. Il avait très peur, mais ne versa pas une larme. Il y avait des gens partout, tous les directeurs d'école de l'association étaient arrivés à l'hôpital et il y avait quantité de journalistes et d'activistes. C'était à croire que toute la ville était là. « Priez pour Malala !» leur déclara-t-il. Les médecins de l'hôpital le rassurèrent. Ils avaient procédé à un scanner et vu que la balle était passée superficiellement sans toucher le cerveau. Ils désinfectèrent et pansèrent la blessure. « Oh, Ziaoudine, qu'ont-il fait ?» s'écria Madame Mariam, la directrice de l'école, en arrivant à son tour. Elle n'était pas à l'école ce jour-là, mais chez elle pour s'occuper de son bébé, quand elle avait reçu un coup de téléphone. Alarmée, elle avait allumé la télévision et vu annoncer que des coups de feu avaient été tirés sur le bus de la Kushal School. Kushal School, l'école qu'a créée le père de Malala, il lui a donné le nom de son fils Kushal. Malala a deux frères, Kushal et Atal. À peine eut-elle appris que j'étais la victime qu'elle avait appelé son mari pour qu'il vienne la chercher et l'amener à l'hôpital sur sa moto, derrière, quelque chose que fait rarement une femme pachtoune respectable. « Malala, Malala, m'entends-tu » demanda-t-elle. Je geignais. Mariam essaya d'en savoir un peu plus. Un médecin qu'elle connaissait lui expliqua que je n'étais pas en danger. Elle vit aussi les deux autres filles de l'école sur qui on avait tiré. Shazia avait pris 2 balles, à la clavicule gauche et dans la main, et elle avait été emmenée à l'hôpital avec moi. Kaynight ne s'était pas rendu compte qu'elle avait été blessée, et c'est seulement en arrivant chez elle qu'elle avait découvert qu'elle avait été effleurée par une balle au bras droit. Et sa famille l'avait amenée. Mon père savait qu'il devait aller prendre de leurs nouvelles, mais il ne voulait pas quitter mon chevet un instant. Son téléphone ne cessait de sonner. Le chief minister fut la première personne à appeler. « Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout, dit-il. L'hôpital Lady Reading de Peshawar vous attend. » Mais ce fut l'armée qui s'en chargea. À 15 heures, le commandant local arriva et annonça qu'un hélicoptère militaire allait venir pour nous transporter, mon père et moi, à l'hôpital de Peshawar. Comme nous n'avions pas le temps d'aller chercher ma mère, Mariam insista pour nous accompagner, car je pouvais avoir besoin de l'aide d'une femme. Elle est comme ma seconde mère. Quand on me chargea dans l'ambulance, mon père craignit que les talibans l'attaquent également. Il se disait que tout le monde devait savoir qui était à l'intérieur. L'héliport était à moins de 2 kilomètres de là, soit 5 minutes en voiture, mais il trembla durant tout le trajet. Quand nous arrivâmes, l'hélicoptère n'était pas encore là, et nous attendîmes dans l'ambulance pendant ce qui nous parut des heures. Finalement, il atterrit. Je fus hissé à bord par des ambulanciers, avec mon père, Ahmad Shah et Mariam. Ma mère nous regarda nous envoler depuis le toit de notre maison. Au début, la nouvelle n'était pas claire, et elle avait compris qu'il y avait eu un accident et que j'avais été blessée au pied. Bientôt, la maison fut remplie de femmes. Dans notre culture, si quelqu'un meurt, les femmes viennent à la maison du défunt. Ma mère fut étonnée par l'affluence. Elle s'assit sur une natte de prière et récita le Coran. Elle enjoignit les femmes à ne pas pleurer, mais à prier. Puis mes frères firent irruption dans la pièce. Attal, qui était rentré à pied de l'école, avait allumé la télévision et vu qu'on m'avait tiré dessus. Il avait appelé Kouchal, et tous les deux se joignirent aux prières. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les gens tentaient à rassurer ma mère, et lui disaient que j'avais pris une balle dans la tête, mais qu'elle avait seulement frôlé le front. Ma mère était décontenancée par toutes ces versions différentes. D'abord, j'avais été blessée au pied, puis on m'avait tiré dans la tête. Elle pensa que je trouverais étrange qu'elle ne soit pas venue me retrouver. Mais des gens lui dirent de ne pas y aller, car j'étais soit morte, soit en train d'être évacuée. L'un des amis de mon père appela pour prévenir que l'on m'emmenait en hélicoptère à Peshawar et qu'elle devait m'y rejoindre par la route. Le pire moment pour elle fut lorsque quelqu'un arriva pour rapporter mes clés qu'on avait retrouvées sur le lieu de la fusillade. « Je ne veux pas des clés, je veux ma fille !» Puis on entendit le bruit de l'hélicoptère. L'héliport était situé à moins de 2 kilomètres de notre maison. Toutes les femmes se précipitèrent sur le toit. Alors que l'appareil les survolait, ma mère ôta le foulard de sa tête, geste extrêmement rare pour une pachtoune, et elle le brandit à 2 mains dans le ciel, comme s'il s'agissait d'une offrande. « Mon Dieu, je la remets à ta protection. Nous n'avons pas accepté des gardes du corps. Tu es notre protecteur. » Elle était sous ta protection et tu dois nous la rendre. Dans l'hélicoptère, je vomissais du sang. Mon père était horrifié, pensant que je faisais une hémorragie interne. Il commençait à perdre espoir. C'est alors que Mariam remarqua que j'essayais de m'essuyer la bouche avec mon foulard. « Regardez, elle réagit. C'est un excellent signe. » Quand nous atterrîmes à Peshawar, il pensait qu'on nous avait emmenés à l'hôpital Lady Reading où opérait un très bon neurochirurgien, le docteur Mumtaz, qui nous avait été recommandé. Mais ils furent alarmés de voir qu'on nous emmenait au Combined Military Hospital, le CMH, qui est un vaste hôpital de 600 lits qui date de l'occupation britannique. L'hôpital était souvent occupé à soigner les blessés et les victimes des attentats suicides qui ensanglantaient la ville et les alentours. Comme presque partout dans le pays, il y avait des blocs de ciment et des barrages tout autour de l'hôpital pour empêcher l'entrée des voitures piégées. On me plaça dans une unité d'isolation derrière une paroi vitrée. Une infirmière me mit sous perfusion. Un jeune homme arriva et se présenta comme le colonel Jouned, le neurochirurgien. Mon père fut encore plus troublé. Il trouvait qu'il n'avait pas l'air d'un médecin, tellement il paraissait jeune. « C'est votre fille ?» demanda le colonel. Mariam se fit passer pour ma mère, afin de pouvoir entrer. Le colonel Jouned m'ausculta. J'étais consciente et je bougeais, mais je ne parlais pas et je clignais des paupières. Le colonel recousit la blessure au-dessus de mon sourcil gauche où était entrée la balle. Mais il fut surpris de ne pas voir de balle dans le scan. S'il y a un point d'entrée, il y a forcément un point de sortie, dit-il. Il me palpa la colonne vertébrale et localisa la balle près de mon omoplate gauche. Elle devait être baissée et avoir le cou plié quand on a tiré, dit-il. On me mena faire un autre scanner. Puis le colonel appela mon père dans son bureau, où les images apparaissaient sur son écran. Il lui expliqua que le scan fait dans le SWAT, dans la région où ils habitaient, avait été pris sous un angle unique, mais que ce nouvel examen montrait que la blessure était plus grave qu'il n'y paraissait. « Regardez, Ziaoudine, le scan montre que la balle a frôlé le cerveau de très près. » Il lui expliqua que des particules d'os avaient même endommagé la dure mère. « Nous pouvons prier Dieu et attendre, » dit-il. Mon père fut de plus en plus troublé. Dans le SWAT, les médecins lui avaient dit que c'était bénin. À présent, on lui disait que c'était très grave. Et si c'était très grave, pourquoi n'opérait-on pas? Il se sentait mal à l'aise dans un hôpital militaire. Dans notre pays, où l'armée a pris le pouvoir, tellement de fois, nous sommes assez circonspects vis-à-vis des militaires, en particulier ceux qui, comme nous dans le SWAT, ont pu voir que l'armée avait pris son temps pour agir contre les talibans. Un des amis de mon père l'appela et lui dit « Fais-la sortir de cet hôpital, pas question qu'on fasse d'elle une Shahid Miyat, un martyr de la nation, comme Liaquat Ali Khan. » Mon père ne savait plus quoi faire. « Je suis décontenancé, » dit-il au colonel Junaid. « Pourquoi sommes-nous ici? Je croyais que nous allions dans un hôpital civil. Pourriez-vous faire venir le docteur Mumtaz ?»«
De quoi ça aurait l'air ?» répondit le colonel Junaid, qui était offensé, ce qui n'avait rien d'étonnant.
Plus tard, nous découvrîmes que malgré son allure juvénile, il était neurochirurgien depuis 13 ans. Et il était le praticien le plus expérimenté et décoré de l'armée pakistanaise. Il s'était engagé comme médecin à cause des installations de pointe de l'armée, sur les pas de son oncle, qui avait lui aussi été neurochirurgien militaire. L'hôpital de Peshawar était en première ligne de la guerre contre le terrorisme et Junaid était confronté tous les jours à des blessures par balles et explosions. « J'ai soigné des milliers de malalas, » déclara-t-il plus tard. Mais sur le moment, mon père ne savait rien de tout cela et il fut désespéré. « Faites comme vous estimez le mieux, » dit-il, « c'est vous le médecin. » En fin de soirée, ma mère arriva avec Atal. Ils avaient fait 4 heures de route, conduits par l'ami de mon père, Mohamed Farouk. Avant qu'elle arrive, Mariam l'appela pour la prévenir. « Quand vous verrez Malala, ne pleurez pas et ne criez pas. Elle peut vous entendre, même si vous croyez que non. » Mon père l'appela aussi et lui demanda de se préparer au pire. Il voulait la protéger. Ma mère était en état de choc et ne comprenait pas pourquoi les médecins n'opéraient pas pour enlever la balle. « Ma courageuse fille, ma magnifique fille, » disait-elle. Mon père fut ébahi du nombre de gens attroupés au dehors, responsables politiques, dignitaires du gouvernement, ministres provinciaux, étaient venus témoigner leur sympathie. Il y avait là même le gouverneur qui donna à mon père 100 000 roupies pour mes soins. Dans notre société, si quelqu'un meurt, on est honoré qu'un dignitaire vienne chez vous. Mais là, mon père était très irrité. Il avait l'impression que ces gens attendaient simplement que je succombe à mes blessures. Il n'avait rien fait pour me protéger. Plus tard, durant le dîner, Atal alluma la télévision, que mon père éteignit aussitôt. Il ne supportait pas de voir les sujets sur mon agression. Quand il sortit de la pièce, Mariam la ralluma. Apparemment, toutes les chaînes montraient des images de moi avec un commentaire de prière et d'émouvante poésie, comme si j'étais morte. « ma Malala !» se mit à gémir ma mère, rejointe par Mariam. Vers minuit, le colonel Junaid demanda à retrouver mon père devant l'unité de soins intensifs. « Ziaoudine, Malala a un œdème cérébral. » Mon père ne comprit pas ce que cela voulait dire. Le médecin lui expliqua que mon état avait commencé à se dégrader, que je perdais conscience et que j'avais de nouveau vomi du sang. Il demanda un troisième scanner. Cette fois, on distinguait nettement l'œdème cérébral. Mon cerveau gonflait dangereusement.
Mais je croyais que la balle n'avait pas touché le cerveau, dit mon père.
Le colonel Juned expliqua qu'un os s'était fracturé et que des éclats avaient pénétré dans le cerveau, provoquant une onde de choc qui engendrait à son tour un gonflement. Il devait enlever une partie du crâne afin de donner au cerveau la place de gonfler, sinon la pression deviendrait insupportable. « Nous devons opérer maintenant pour lui donner une chance, dit-il. Si nous ne le faisons pas, elle pourrait mourir. Je ne veux pas que plus tard vous regrettiez de ne pas avoir agi. » L'ablation d'une partie du crâne sembla tout à fait radicale à mon père. « Elle survivra ? » demanda-t-il, désespéré. À ce stade, il n'était pas possible de lui donner une réponse rassurante. C'était une courageuse décision du colonel Juned. Ses supérieurs n'étaient pas convaincus de l'opportunité d'une telle opération et répétaient qu'il valait mieux l'envoyer à l'étranger. Cette décision allait me sauver la vie. Mon père lui donna son accord et le colonel Juned déclara qu'il allait faire appel au docteur Mumtaz pour l'aider. Mon père signa la décharge d'une main tremblante. Il était dit noir sur blanc dans le document que le patient risquait de mourir. L'opération commença vers 1h30 du matin. Mes parents attendirent devant le bloc opératoire.
« Oh mon Dieu !» priait mon père, qui commençait à négocier avec le ciel. Ma mère finit par l'interrompre.
« Dieu n'est pas avare, dit-elle. Il me rendra ma fille telle qu'elle était. »
Jamais je n'avais vu quelqu'un prier comme elle, raconta Mariam. Mon père essaya de ne pas penser au passé et de se demander s'il avait eu tort de m'encourager à m'exprimer et à l'accompagner dans son combat. Au bloc, le colonel Juned retira à la scie un morceau carré de 8 ou 10 cm de côté sur la partie supérieure gauche de mon crâne, afin que mon cerveau ait la place de gonfler. Puis il coupa un morceau de tissu sous-cutané dans la partie gauche de mon ventre et y plaça l'os afin de le préserver. Ensuite, il procéda à une trachéotomie car il craignait que l'œdème bloque les voies respiratoires. Il enleva également des caillots sanguins et retira la balle de mon omoplate. Après toutes ces opérations, je fus mise sous assistance respiratoire. Le tout prit plus de 4 heures. Malgré les prières de ma mère, mon père se disait que 99% des gens massés dehors pensaient qu'ils allaient bientôt voir sortir la dépouille de Malala. Certains, ses amis et partisans, étaient totalement bouleversés, mais ils pensaient que d'autres étaient jaloux de notre renom et jugeaient que nous avions eu ce que nous méritions. Mon père faisait une brève pause devant le bloc quand une infirmière l'aborda. « Vous êtes le père de Malala ?» Une fois de plus, son cœur s'arrêta de battre. L'infirmière l'emmena dans une salle. Il crut qu'elle allait lui dire « Nous sommes désolés, nous l'avons perdu. » Mais elle lui annonça « Nous avons besoin que quelqu'un aille chercher du sang à la banque de sang. » Soulagé, mais stupéfait. « Et je suis la seule personne qui puisse y aller » demanda-t-il. Son ami Ahmad Shah s'en chargea. Il était 5h30. Quand les chirurgiens reparurent, ils annoncèrent à mon père qu'ils avaient enlevé un morceau de crâne inséré ensuite dans l'abdomen. Dans notre culture, les médecins ne donnent pas d'explication aux patients ou à la famille. Et mon père demanda humblement « Si ça ne vous ennuie pas, j'ai une question idiote. Va-t-elle s'en sortir, à votre avis ?»
En médecine, 2 + 2 ne font pas toujours 4, répondit le colonel Juned. Nous avons fait notre travail. Nous avons enlevé un morceau de crâne. À présent, nous devons attendre. J'ai une autre question idiote. Et cet os, qu'allez-vous en faire?
Dans 3 mois, nous le remettrons en place, répondit le docteur Mumtaz. C'est très simple, juste comme ça, ajouta-t-il en frappant dans ses mains. Le lendemain matin, les nouvelles étaient bonnes. J'avais bougé le bras. Puis 3 chirurgiens de premier plan vinrent m'examiner. Ils déclarèrent que le colonel Juned avait fait un excellent travail et que l'opération s'était très bien déroulée, mais qu'il fallait me plonger dans un coma artificiel, car si je reprenais connaissance, il y aurait trop de pression sur mon cerveau. Pendant que j'oscillais entre la vie et la mort, les talibans publièrent un communiqué revendiquant l'attentat, mais réfutant que c'était à cause de mon combat pour l'éducation. « Nous avons perpétré cet attentat et quiconque s'élève contre nous subira les mêmes représailles », déclara Ehsanullah Ehsan, un porte-parole des talibans. Malala a été prise pour cible pour avoir prêché la laïcisation. Elle était jeune, mais elle promouvait la culture occidentale dans les régions pachtounes. Elle était pro-occidentale, s'exprimait contre les talibans et disait que le président Obama était son idole. Un porte-parole des talibans déclara que Fazlullah, donc le chef des talibans pakistanais, avait ordonné l'attentat lors d'une réunion 2 mois auparavant. « Quiconque se range aux côtés du gouvernement contre nous mourra de nos mains », précisa-t-il. « Vous verrez, d'autres personnalités importantes seront bientôt prises pour cible. » Il ajouta qu'il avait recouru à 2 Swati, 2 habitants de la région du Swat, donc, qui s'étaient renseignés sur moi et mon itinéraire et avaient procédé à l'attentat exprès devant un barrage routier de l'armée afin de montrer qu'il pouvait frapper n'importe où. Ce premier matin, quelques heures après mon opération, il y eut soudain une activité fébrile et tout le monde rajusta sa tenue et fit du rangement. Puis le chef des armées, le général Ashfaq Kayani, arriva. « Les prières de la nation sont avec vous et votre fille, » dit-il à mon père. J'avais fait la connaissance du général Kayani quand il était venu dans le Swat pour une grande assemblée à la fin de 2009, après l'opération militaire contre les talibans. « Je vous félicite pour votre beau travail, » lui avais-je dit à cette occasion. « À présent, vous n'avez plus qu'à attraper Fazlullah. » Le docteur Juneld fit au général un compte-rendu de l'opération et lui exposa les soins prévus. Le général lui dit qu'il devait envoyer des scans à l'étranger pour solliciter l'avis des meilleurs experts. Après sa visite, plus personne d'autre ne fut autorisé à mon chevet en raison du risque d'infection. Mais beaucoup se présentèrent. Imran Khan, le joueur de cricket devenu homme politique, Mian Iftikhar Hussain, le ministre provincial de l'information, virulent détracteur des talibans, qui avait abattu son fils unique, et le chief minister Hamer Haideh Khan Oti, avec qui j'étais passé dans des émissions de débat. Aucun d'entre eux n'eut le droit d'entrer. « Soyez assurés que Malala ne mourra pas », annonça Oti aux gens. Elle a encore beaucoup à faire. Puis vers 15h, 2 médecins britanniques arrivèrent en hélicoptère de Rawalpindi. Le docteur Javid Kayani. Ce docteur porte le même nom donc, que le chef des armées pakistanaises. Ils ne sont pas parents, mais ils vont se retrouver ensemble au chevet de Malala. Donc, le docteur Javid Kayani et le docteur Fiona Reynolds étaient médecins à Birmingham et se trouvaient être au Pakistan pour conseiller l'armée sur la création d'un programme de greffe du foie. Notre pays regorge de statistiques choquantes, pas seulement concernant l'éducation, et l'une d'elles veut qu'un enfant sur 7 au Pakistan souffre d'hépatite, en grande partie à cause d'aiguilles mal désinfectées, et que beaucoup meurent d'infections hépatiques. Le général Kayani était déterminé à changer cela et l'armée avait une fois de plus pris en main un dossier que les autorités civiles n'avaient pas su gérer. Il avait demandé au médecin de le briefer avant de rentrer chez lui le lendemain matin de mon attentat. Quand ils vinrent le voir, il avait plusieurs télévisions allumées, une chaîne locale en ourdou et Sky News en anglais, où l'on parlait de mon agression. Le docteur Javid Kayani et le chef des armées Kayani, le général Kayani, se connaissaient donc très bien. Le chef des armées confia au docteur Javid Kayani qu'il était inquiet des rapports contradictoires qu'il recevait et lui demanda d'aller m'examiner avant de repartir au Royaume-Uni. Le docteur Kayani, qui est consultant aux urgences du Queen Elizabeth Hospital, accepta, mais demanda à être accompagné du docteur Fiona Reynolds, puisqu'elle travaille à l'hôpital pour enfants de Birmingham et est spécialiste des soins intensifs. Elle était très inquiète à la perspective de se rendre à Peshawar, une zone déconseillée aux étrangers. Mais quand elle apprit que je militais pour l'éducation des filles, elle fut heureuse d'apporter son concours, étant donné qu'elle avait elle-même bénéficié d'une bonne éducation et fait des études de médecine. Les médecins anglais déplorèrent les conditions d'hygiène. D'abord, ils ouvrirent le robinet pour se laver les mains et découvrirent qu'il n'y avait pas d'eau. Ensuite, le docteur Reynolds vérifia les appareils de mesure et murmura quelque chose au docteur Kayani. Elle demanda quand on avait pris ma tension artérielle pour la dernière fois. « Il y a 2 heures », fut la réponse. Elle déclara qu'elle devait être mesurée en permanence et demanda à l'infirmière pourquoi il n'y avait pas de tensiomètre. Elle se plaignit également que mon taux de dioxyde de carbone soit beaucoup trop bas. Heureusement que mon père n'entendit pas ce qu'elle déclara au docteur Kayani. Elle dit que j'étais sauvable. J'avais subi l'opération qu'il fallait au bon moment, mais mes chances de récupération étaient à présent compromises par les soins post-opératoires. Après la neurochirurgie, il est essentiel de surveiller la respiration et l'échange gazeux et le taux de CO2 qui doit être maintenu à un niveau normal. C'était ce que tous ces appareils et tubes surveillaient. Le docteur Kayani déclara « C'est comme piloter un avion, on ne peut le faire qu'en utilisant les bons instruments. » Et même si l'hôpital les avait, les médecins ne s'en servaient pas comme il fallait. Après quoi, ils repartirent en hélicoptère car il était dangereux de rester à Peshawar après la tombée de la nuit. Parmi les personnes qui vinrent me rendre visite mais ne furent pas admises, il y avait Rehman Malik, le ministre de l'Intérieur. Il avait apporté un passeport pour moi. Mon père le remercia, mais il était très contrarié. Ce soir-là, quand il rentra à l'hôtel de l'armée, il sortit le passeport de sa poche et le donna à ma mère. « Il est pour Malala, mais je ne sais pas si c'est pour qu'elle aille à l'étranger ou au paradis. » Dans leur bulle, à l'hôpital, ils ne s'étaient pas rendu compte que mon histoire avait fait le tour du monde et que des gens appelaient pour que je sois soignée à l'étranger. Mon état se dégradait et mon père répondait maintenant rarement au téléphone. L'un des appels qu'il prit était des parents d'Arfa Karim, une jeune prodige de l'informatique, originaire du Punjab pakistanais, avec qui j'avais discuté sur des forums. Elle était devenue la plus jeune employée certifiée Microsoft à l'âge de 9 ans et avait même été invitée à rencontrer Bill Gates à la Silicon Valley. Mais elle était morte tragiquement au mois de janvier d'un arrêt cardiaque à la suite d'une crise d'épilepsie. Elle n'avait que 16 ans, un de plus que moi. Quand son père appela le mien, mon père céda à l'émotion. « Dites-moi comment on peut vivre sans sa fille » sanglota-t-il. On m'avait tiré dessus un mardi à l'heure du déjeuner. Le jeudi matin, mon père était tellement convaincu que j'allais mourir qu'il déclara à son beau-frère Faiz Mohamed que le village devait commencer à préparer mes obsèques. J'avais été plongée dans un coma artificiel. Mes signes vitaux se dégradaient. Mon visage et mon corps étaient enflés et mes reins et mes poumons se détérioraient. Mon père me raconta que c'était terrifiant de me voir relié à tous ces tubes dans un petit aquarium en verre. D'après ce qu'il voyait, j'étais médicalement morte. Il était effondré. « C'est trop tôt, elle n'a que 15 ans. Sa vie ne peut pas être aussi courte. » Le mercredi soir, 2 médecins militaires spécialistes des soins intensifs étaient arrivés d'Islamabad par la route. Ils avaient été envoyés par le général Kayani après que les 2 médecins anglais lui avaient dit que si je restais à Peshawar, je subirais des dommages cérébraux ou que je mourrais peut-être en raison de la mauvaise qualité des soins intensifs et du risque élevé d'infection. Ils voulaient me déplacer, mais ils suggérèrent qu'en attendant, un médecin de premier plan soit appelé. Mais ils arrivaient trop tard. Le personnel de l'hôpital n'avait procédé à aucun des changements recommandés par le docteur Reynolds. Mon état s'était dégradé durant la nuit et une infection s'était déclarée. Le jeudi matin, l'un des hommes, le général de la brigade Aslam, appela le docteur Reynolds. « Malala est au plus mal », lui dit-il. Je souffrais de septicémie. Mon sang ne coagulait plus. Ma pression artérielle était très basse et l'acidité du sang avait augmenté. Je n'évacuais plus l'urine, mes reins souffraient et mon taux de lactate avait augmenté. Apparemment, tout ce qui pouvait se gâter avait mal tourné. Le docteur Reynolds allait prendre l'avion de retour à Birmingham. Ses bagages étaient déjà à l'aéroport. Mais quand on lui annonça la nouvelle, elle se proposa d'aider et deux infirmières de son hôpital de Birmingham restèrent avec elle. Elle revint à Peshawar le jeudi à l'heure du déjeuner et annonça à mon père que j'allais être transportée par avion dans un hôpital militaire de Rawalpindi qui avait la meilleure unité de soins intensifs. Il ne comprit pas comment une enfant aussi mal en point pouvait être transportée ainsi, mais Fiona lui assura que c'était une pratique très courante et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il lui demanda s'il y avait le moindre espoir pour moi. « S'il n'y avait pas d'espoir, je ne serais pas là, » répondit-elle. Un peu plus tard, une infirmière vint me mettre des gouttes dans les yeux. « Regarde, Kestar, » dit ma mère. « Le docteur Reynolds a raison. Les infirmières mettent des gouttes dans les yeux de Malala. Elle ne ferait pas ça s'il n'y avait pas d'espoir. » L'une des autres filles sur qui on avait tiré, Shazia, avait été amenée au même hôpital et le docteur Reynolds alla l'examiner aussi. Elle rapporta à mon père que Shazia allait bien et l'avait supplié « Soignez Malala !» On nous emmena à l'héliport en ambulance, escortés par des motos et des gyrophares. Le vol dura 75 minutes. Le docteur Reynolds n'eut même pas le temps de s'asseoir. Elle fut si occupée pendant tout le trajet avec les différents appareils que mon père raconta qu'elle donnait l'impression de se battre. Elle faisait un travail qu'elle accomplissait depuis des années. La moitié du temps, au Royaume-Uni, elle transportait des enfants gravement malades ou blessés. Et le reste du temps, elle s'en occupait en soins intensifs. Mais elle n'avait jamais connu une situation compliquée comme celle-ci. Non seulement Peshawar était dangereux pour les Occidentaux, mais après m'avoir googlisé, elle se rendit compte que ce n'était pas une affaire ordinaire. Si quoi que ce soit lui était arrivé, on aurait tout mis sur le dos de la femme blanche, raconte-t-elle par la suite. Si elle était morte, on aurait dit que j'avais tué la mère Teresa du Pakistan. À Rawalpindi, nous fûmes emmenés en ambulance, sous escorte militaire, dans un hôpital appelé Institut de cardiologie des forces armées. Mon père était alarmé. Comment allait-il savoir s'occuper de blessures à la tête ? Fiona Reynolds lui assura que c'était la meilleure unité de soins intensifs du Pakistan, avec un équipement de pointe et des médecins formés en Angleterre. Ses propres infirmières de Birmingham l'y attendaient déjà et elle avait expliqué aux infirmières de cardiologie les procédures spécifiques pour les blessures au crâne. Elles passèrent les 3 heures suivantes auprès de moi, modifiant le traitement antibiotique et les transfusions auxquelles je semblais mal réagir. Finalement, elles déclarèrent que j'étais stabilisée. L'hôpital avait été totalement isolé. Il y avait un bataillon de soldats qui le gardait et même des tireurs d'élite sur les toits. Personne n'était autorisé à rentrer. Les médecins devaient porter un uniforme. Les patients ne pouvaient recevoir de visite que de leurs proches qui subissaient tous une fouille stricte. Un major assigné à mes parents les suivait partout. Mon père avait peur. Mon oncle n'arrêtait pas de répéter. « Fais attention, certains de ces gens pourraient bien être des agents secrets. » Ma famille reçut 3 chambres dans la résidence des officiers. Tous les téléphones portables furent confisqués, paraît-il pour des raisons de sécurité, mais peut-être aussi pour empêcher mon père de parler aux médias. Chaque fois que mes parents voulaient faire à pied le court trajet entre la résidence et l'hôpital, il fallait d'abord appeler par talkie-walkie pour faire dégager le chemin, ce qui prenait au moins une demi-heure. Ils étaient même flanqués de gardes quand ils traversaient la pelouse pour gagner la salle à manger. Aucun visiteur ne pouvait entrer, même le premier ministre Ashraf, quand il vint me voir à l'hôpital, n'y fut pas autorisé. La sécurité semblait ahurissante, mais au cours des 3 dernières années, les talibans avaient réussi à infiltrer et à attaquer les installations militaires les plus étroitement surveillées. Nous risquions tous un attentat perpétré par les talibans. On fit savoir à mon père que même mes frères ne seraient pas épargnés. Il était très inquiet, car à cette époque, Kushal était encore à Mingora, à la maison. Même s'il fut plus tard amené à Rawalpindi pour les rejoindre, il n'y avait pas d'ordinateur ni de connexion Internet dans la résidence. Mais le cuisinier, l'aimable Yassim Mama, apportait à ma famille les journaux et tout ce dont ils avaient besoin. Yassim leur déclara qu'il était fier de cuisiner pour eux. Ils furent si touchés de sa bonté qu'ils partagèrent notre histoire avec lui. Il voulait alléger leur peine grâce à sa cuisine. Comme il n'avait plus d'appétit, il essayait de les tenter avec des plats les plus délicats, des sauces et des sucreries. À un repas, Kushal déclara que la table lui paraissait vide parce qu'il n'était que 4. Ils avaient l'impression de ne pas être au complet. C'est dans l'un des journaux apportés par Yassim que mon père lut pour la première fois certaines des réactions internationales suscitées par l'attentat dont j'avais été victime. Apparemment, le monde entier s'indignait. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, le qualifiait d'acte lâche et haineux. Le président Obama l'avait décrit comme répréhensible, révoltant et tragique. Mais les réactions au Pakistan n'étaient pas toutes aussi positives. Tandis que certains journaux me décrivaient comme une icône de la paix, d'autres répandaient les habituelles théories conspirationnistes, certains blogueurs allant jusqu'à mettre en doute la réalité de l'attentat. Toutes sortes d'histoires furent inventées, notamment dans la presse ourdoue, disant par exemple que j'avais critiqué le fait que les hommes se laissent pousser la barbe. L'une des personnes les plus véhémentes à mon encontre était le docteur Raela Kazi, une députée membre du Jamaat islamite. Elle me qualifiait de laquais à la solde de l'Amérique et montrait la photo de moi assise à côté de l'ambassadeur Richard Holbrook pour prouver que j'étais de mèche avec les autorités militaires américaines. Le docteur Fiona Reynolds fut d'un grand réconfort pour ma famille. Comme ma mère parle seulement pachto, elle ne pouvait comprendre ce qui se disait. Mais Fiona levait le pouce en l'air quand elle sortait de ma chambre, en ajoutant « Bon !» Outre sa fonction de médecin, elle devint une messagère. Elle prenait le temps de tout expliquer et attendait que mon père traduise pour ma mère. Mon père était stupéfait et ravi. Dans notre pays, peu de médecins prenait la peine d'expliquer quoi que ce soit à une femme illettrée. Ils apprirent que le monde entier se proposait de me soigner, notamment l'Amérique, où l'hôpital Johns Hopkins m'offrait le traitement. Des personnalités me proposèrent également leur aide, notamment le riche sénateur John Kerry, qui était souvent venu en visite au Pakistan, et Gabriel Giffords, membre du Congrès, sur qui on avait tiré en pleine tête durant une réunion électorale en Arizona. Nous recevions des soutiens d'Allemagne, de Singapour, des Émirats arabes unis et de Grande-Bretagne. Personne ne demandait à mes parents leur avis. Toutes les décisions étaient prises par l'armée. Le général Kayani demanda au docteur Javid Kayani si je devais être envoyé à l'étranger ou non. Le chef des armées consacra une surprenante quantité de temps à cette question. Selon le médecin, la discussion dura 6 heures. Peut-être plus que tout autre dirigeant, il comprenait les implications politiques qu'aurait eu mon décès. Il espérait également parvenir à un consensus national pour lancer une attaque généralisée contre les talibans. Mais ceux qui le connaissent bien disent que c'est un homme compatissant. Son propre père était un soldat de rang qui était mort jeune, le laissant, en tant qu'aîné, responsable de ses 7 frères et sœurs et de sa mère. Quand il devint chef de l'armée, la première mesure du général Kayani fut d'améliorer les logements, les rations et l'éducation des soldats du rang, plutôt que ceux des officiers. Le docteur Fiona Reynolds déclara qu'il était probable que j'aie des difficultés d'élocution et une faiblesse dans les membres du côté droit, ce qui impliquerait une rééducation poussée que le Pakistan n'était pas en mesure de me fournir. « Si vous tenez à ce que tout se passe au mieux, emmenez-la à l'étranger, conseilla-t-elle. » Le docteur Kayani, le général Kayani, exigea que les Américains ne soient aucunement impliqués à cause des relations difficiles entre les deux pays, depuis le raid sur la maison de Ben Laden ainsi que la mort des soldats pakistanais à un poste frontière provoqué par un hélicoptère américain. Le docteur Kayani proposa Great Ormond Street à Londres et des hôpitaux spécialisés à Édimbourg et à Glasgow. « Pourquoi pas votre propre établissement ?» demanda le général. Le docteur Kayani s'attendait à cette question. Le Queen Elizabeth Hospital de Birmingham est connu pour traiter les blessures au combat des soldats tombés en Afghanistan et en Irak. Son emplacement en dehors du centre-ville permet également la discrétion. Il appela son patron, Kelvin Bolger, le directeur de l'hôpital. Il convint rapidement que c'était la meilleure chose à faire, même si plus tard il confia « Jamais nous n'aurions imaginé que cela allait mobiliser tout l'hôpital. » Me déplacer, mineure étrangère, jusqu'au Queen Elizabeth Hospital ne fut pas une tâche facile. Et Bolger se retrouva rapidement empêtré dans les pinaillages de la bureaucratie anglaise et pakistanaise. Pendant ce temps, l'heure continuait de tourner. Même si mon état avait été stabilisé, on estimait qu'il fallait me transporter sous 48 heures, 72 heures tout au plus. Finalement, le feu vert fut donné et il fallut désormais résoudre le problème des modalités de transport et de son financement. Le docteur Kayani proposa d'accepter une offre de la Royal Air Force, qui avait l'habitude de transporter des soldats blessés depuis l'Afghanistan. Mais le général Kayani refusa. Il convoqua le médecin en pleine nuit pour un rendez-vous chez lui. Le général avait l'habitude de travailler tard. Et expliqua en enchaînant les cigarettes, comme à son habitude, qu'il refusait qu'une armée étrangère participe à l'opération. Il y avait déjà assez de théories conspirationnistes autour de mon attentat, de gens prétendant que j'étais un agent de la CIA et ce genre de choses, et le chef des armées ne voulait pas les alimenter. Cela mit le docteur Kayani dans une position délicate. Le gouvernement britannique avait proposé son aide, mais il lui fallait une demande officielle du gouvernement pakistanais. Mon gouvernement était réticent à formuler cette demande de peur de perdre la face. Heureusement, à ce stade, la famille régnante d'Arabie Saoudite intervint. Elle proposa son jet privé, qui était médicalisé. Je devais quitter le Pakistan en avion pour la première fois de ma vie, à l'aube du lundi 15 octobre. Mes parents ignoraient tout de ces négociations, même s'ils savaient que des discussions étaient en cours pour un transport à l'étranger. Naturellement, ils pensaient qu'ils m'accompagneraient ou que l'on m'emmènerait. Ma mère et mes frères n'avaient pas de passeport ni de carte d'identité. Un dimanche après-midi, mon père fut informé par le colonel que j'allais partir le lendemain matin pour la Grande-Bretagne et qu'il serait le seul à m'accompagner. On lui expliqua qu'il y avait un problème administratif et que pour des raisons de sécurité, il ne devait même pas dire au reste de la famille qu'il partait. Mon père partage tout avec ma mère et il était hors de question qu'il garde secrète une telle chose. Il lui annonça la nouvelle avec le cœur lourd. « Si elle est toute seule avec deux garçons à Mangora, N'importe quoi peut leur arriver. » Mon père appela le colonel. « J'ai informé ma famille et ils ne sont pas contents. Je ne peux pas les laisser. » Beaucoup de monde s'en mêla et essaya de convaincre mon père de m'accompagner. Y compris le colonel Juned et les docteurs Kayani et Reynolds. Mais mon père resta très ferme, même s'il était clair désormais qu'il créait des difficultés. Mon père expliqua au docteur Kayani « Ma fille est maintenant en sécurité et part pour un pays sûr. Je ne peux pas laisser ma femme et mes fils seuls ici. Ils courent de grands risques. Ce qui est arrivé à ma fille est arrivé, et à présent elle est entre les mains de Dieu. Je suis un père. Mes fils sont aussi importants pour moi que ma fille. » Le docteur Kayani demanda à voir mon père en privé. « Êtes-vous sûr que c'est pour cette seule raison que vous ne venez pas ?» demanda-t-il. Il voulait être sûr que personne n'exerçait de pression sur lui. « Ma femme m'a dit, tu ne peux pas nous abandonner !» répondit mon père. Le médecin lui posa la main sur l'épaule. En lui disant que l'on prendrait soin de moi et qu'il devait lui faire confiance. Mon père signa un certificat faisant du docteur Fiona Reynolds ma tutrice durant mon voyage au Royaume-Uni. Il était en larmes quand il lui donna mon passeport et lui prit la main. « Fiona, je vous fais confiance. Fiona, je vous fais confiance. Prenez soin de ma fille. » Puis ma mère et mon père vinrent me dire au revoir à mon chevet. C'est aux alentours de 23 heures qu'ils me virent pour la dernière fois au Pakistan. Je ne pouvais pas parler. J'avais les yeux fermés et seule ma respiration indiquait que j'étais en vie. Ma mère pleurait, mais mon père essaya de la rassurer, car il estimait qu'à présent j'étais hors de danger. L'œdème avait diminué et mes analyses étaient meilleures. Mes proches étaient convaincus que les deux médecins britanniques allaient me donner les meilleurs soins possibles. Quand mes parents rentrèrent se coucher, le sommeil fut long à venir. Après minuit, on frappa à leur porte. C'était l'un des colonels qui avait essayé de convaincre mon père de laisser ma mère et de partir au Royaume-Uni. Il déclara à mon père qu'il fallait absolument qu'il m'accompagne, sinon je ne voyageais pas. « Je vous ai dit hier que le problème était réglé, » répondit mon père. « Pourquoi m'avez-vous réveillé? Je ne quitterai pas ma famille. » Un autre officier fut appelé pour lui parler. « Vous devez y aller, vous êtes son père, et si vous ne l'accompagnez pas, elle ne pourra pas être acceptée à l'hôpital en Angleterre, » dit-il. « Ce qui est fait, répliqua mon père. « Je ne changerai pas d'avis, nous la rejoindrons tous dans quelques jours quand les papiers seront en règle. » »« Allons à l'hôpital, il y a d'autres documents à signer, » dit alors le colonel. Mon père devint soupçonneux. Il était minuit passé et il avait peur. Il ne voulait pas partir seul avec ses officiers et exigea que ma mère vienne aussi. Il était si angoissé que durant tout le trajet, il répéta inlassablement le calme, un verset du Saint-Coran. Mes parents revinrent à la résidence avec le cœur lourd. Mon père ne voulait pas que je me réveille dans un pays étranger sans ma famille à mes côtés. Il craignait que je sois désorientée. Mon dernier souvenir serait celui du bus scolaire et il redoutait que je me croie abandonnée. On m'emmena à 4 heures du matin, le lundi 15 octobre, sous escorte armée. Les routes de l'aéroport avaient été fermées. Des tireurs d'élite avaient été postés sur les toits des bâtiments qui les bordaient. L'avion des Émirats attendait. On me raconta que c'était le summum du luxe avec un grand lit moelleux, 16 sièges de première classe et un mini-hôpital à l'arrière avec des infirmières européennes sous les ordres d'un médecin allemand. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été consciente pour profiter de tout ça. L'avion partit pour Abu Dhabi où il refit le plein, puis pour Birmingham, où il atterrit en fin d'après-midi. Pendant ce temps, mes parents attendaient à la résidence. Ils pensaient que leur passeport et visa étaient en cours et qu'ils me rejoindraient sous quelques jours. Mais ils n'avaient pas de nouvelles. Ils n'avaient ni téléphone ni accès à un ordinateur pour savoir où j'en étais. L'attente semblait interminable. Cette histoire vraie continue.
Si vous voulez savoir comment, vous trouverez le livre « Moi, Malala » de Malala Yousafzai, édité chez Kalman Levy. Malala y a démontré qu'un enfant est une personne qui peut conquérir et faire valoir ses droits, dont l'éducation est le plus important, car il construit la liberté. Et voici le secret que Malala semble avoir transmis à Greta Thunberg et quelques autres. Nos livres et nos stylos sont les armes les plus puissantes. Merci de votre écoute. Et à très vite.